toutes et à tous, c'est les oreilles loin du front, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Ce soir, nouvelle émission qui va parler de quoi, Yolène?
Eh bien, ce soir, on reçoit Benoît Berthelot, qui est journaliste et spécialiste des nouvelles technologies et qui a mené une enquête sur Amazon. Cette entreprise tentaculaire, comme on va le voir, hein, qui ne s'occupe pas uniquement de vendre des choses en ligne, à la tête de laquelle se trouve le très connu Jeff Bezos, qui maintenant est encore plus riche qu'il y a quelques mois. Et donc, évidemment, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Et au terme de cette enquête, eh bien, Benoît Berthelot a sorti un livre l'année dernière aux éditions du Cherche Midi, Le Monde selon Amazon. Et on va voir avec lui le pouvoir d'Amazon sur les États et sur notre intimité aussi.
Alors, première question, pourquoi ce sujet? Pourquoi avoir voulu travailler sur Amazon?
Au départ, c'était un reportage que j'ai fait en 2015 à Seattle, donc qui est la ville de la côte ouest des États-Unis où Amazon a son siège. Et j'ai pu, à cette occasion, donc c'était un reportage pour le magazine Capital pour lequel je travaille, j'ai pu à cette occasion rencontrer beaucoup de gens qui travaillaient pour Amazon, des lieutenants de Jeff Bezos, le fondateur, des ingénieurs qui étaient en charge de toute l'innovation d'Amazon. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont présenté Alexa, et en fait l'enceinte connectée d'Amazon Echo, donc qui vous répond quand vous lui parlez, etc. Et c'était balbutiant comme produit à ce moment-là. Ils commençaient tout juste à le commercialiser aux États-Unis et je me suis dit qu'ils étaient fous, que ça ne marcherait jamais, etc. Bon, ils en ont vendu depuis plus de 100 millions. Mais comme ça, ils m'ont montré toutes leurs innovations, les magasins sans caisse, où vous sortez automatiquement sans payer, des sortes de baguettes magiques qui vous permettent de scanner tous vos articles et de les acheter, de les réacheter automatiquement en ligne, etc. Enfin, j'étais impressionné par tous les secteurs qu'ils couvraient, en fait, au-delà du simple commerce en ligne. J'avais pas réalisé à quel point ils étaient présents dans beaucoup de secteurs, le cloud, et à quel point ils réfléchissaient au-delà du simple commerce en ligne. Et puis après, j'ai senti un espèce d'esprit d'entreprise très particulier aussi, que beaucoup de salariés décrivent comme la secte Amazon, hein, j'ai repris leur terme de secte dans le livre, qui est des grands principes, des grands commandements, voilà, que tous les salariés connaissent et répètent. Et je me suis dit, il y a un esprit très, très spécial dans cette entreprise, il y a une ambition démesurée, il y a une vision de la société qui est folle, qui est inquiétante à bien des égards, et c'est pas uniquement le site de e-commerce que j'imaginais. En plus de ça, c'est une entreprise monde, voilà, qui a maintenant 876 000 salariés dans le monde, sur tous les continents, qui est en Inde, qui est partout en Europe, aux États-Unis. Donc il y a un thème aussi social très fort, c'est pas juste une entreprise de la technologie comme Google ou comme Facebook qui a quelques dizaines de milliers d'employés, mais qui sont plutôt des ingénieurs. C'est vraiment une entreprise aussi qui est un nouveau capitalisme qui allie à la fois la nouveauté, la technologie, qui est présente partout. C'est vraiment une entreprise technologique. Et en même temps, le fait d'avoir énormément de salariés, ça, c'est comme un Toyota, quoi, par l'ampleur du nombre de salariés qu'ils ont, donc avec toutes les problématiques sociales que ça peut avoir, le rapport au salariat, le management, lui aussi très technologique, auquel sont soumis tous ces employés, qui ne sont pas du tout tous des ingénieurs, hein, qui sont aussi des livreurs, des manutentionnaires pour la plupart, en fait. Donc tout ça m'a fait penser que c'était un très bon sujet à creuser, voilà. Peut-être un des GAFA les moins connus, finalement, moins présents dans l'esprit des gens que Facebook ou que Google quand on parle de ces géants américains. Et donc j'ai continué à suivre le sujet pendant toutes ces années, en multipliant les reportages, donc pas seulement aux États-Unis, mais en Angleterre, à travers l'Europe, au Luxembourg, en Inde, et peu à peu en faisant de plus en plus ces reportages pour en faire un livre complet sur le sujet et pour aller au-delà de la simple surface de ce que c'est qu'Amazon, on va dire, de ce que connaît le consommateur de cette entreprise.
Et est-ce que vous avez eu des bâtons dans les roues, ou en tout cas vous avez senti un moment que votre enquête gênait, notamment tout le sujet autour des techniques de management, etc. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des pressions pour que le livre soit pas publié ou...
Alors ça, c'est très particulier. Ces entreprises-là, en fait, c'est des entreprises à l'anglo-saxonne, à l'américaine, qui ont un rapport aux journalistes finalement très simple. C'est soit on vous donne l'accès, donc on vous donne des interviews, on vous autorise à voir l'entrepôt, et à ce moment-là, voilà, c'est open bar, vous faites toutes les interviews que vous voulez, comme la première fois que je suis allé au siège de l'entreprise à Seattle, ou bien soit vous n'avez rien, voilà, on vous donne aucun accès, on n'a pas de porte-parole disponible sur ce sujet, voilà, ça c'est la phrase type qu'ils vous diront. Et donc voilà, il y a les sujets interdits sur lesquels aucun accès n'est possible. Par exemple, la fiscalité, évidemment, dès qu'on parle des impôts, il a fallu que j'aille au Luxembourg et que je rencontre des salariés, et surtout que j'épluche toute la documentation financière de l'entreprise pour comprendre comment étaient faits les montages fiscaux, etc. Mais Amazon ne va jamais parler de ça. Voilà, les entrepôts, une fois qu'on a eu accès à un entrepôt, on est sous surveillance constante d'un service de communication. C'est-à-dire que vous parlez à des salariés, mais vous avez à côté d'eux quelqu'un de la communication d'Amazon qui écoute ce qu'ils sont en train de dire à un journaliste. Bon, c'est facile de comprendre que ces salariés ne parlent pas librement. Et ça, c'est très facile à voir quand on fait l'interview. Et je me souviens d'avoir interviewé une manutentionnaire une fois dans un entrepôt. Elle était en train de remplir son chariot. Je me suis arrêté une seconde pour noter dans mon cahier ce qu'elle disait. Et deux secondes plus tard, elle était déjà repartie pour continuer la collecte des produits, parce qu'elle avait son chrono, il fallait qu'elle poursuive son travail. Donc c'est de toute façon pas des conditions d'interview optimales. Donc en fait, ce que j'ai dû faire la plupart du temps, c'est rencontrer les salariés par mes propres moyens, off the record, comme on dit, en les contactant par ailleurs, en les rencontrant dans des cafés, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, en les rencontrant en dehors de leur travail. Et ça a été particulièrement vrai pour... aussi pour les principaux lieutenants de Jeff Bezos, ceux qui ont lancé l'entreprise avec lui, vraiment, il y a 25 ans de ça. Ça, c'est pareil, c'est des interviews qui n'étaient pas possibles autrement que quand moi, en cherchant qui ils étaient, en prenant l'initiative de les contacter. Et je dirais que la difficulté principale, c'est, dans ces enquêtes-là, c'est que sur le nombre de personnes qu'on contacte pour une interview, il y en a peut-être 10% qui vont accepter l'interview. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler. Ils ont encore des actions dans l'entreprise, même s'ils l'ont quittée. Pour certains, ils signent des accords de non-divulgation d'informations, et des accords qui courent même après leur départ de l'entreprise. Donc, c'est ça les principales difficultés que j'ai eues. Mais Amazon, officiellement, c'est poker face. Voilà, ils vont pas se plaindre d'un livre, ils vont pas critiquer un journaliste... Ils vont pas faire d'action en justice contre la presse non plus. C'est, on va dire, la liberté d'expression à l'américaine. À la différence de groupes, parfois, d'entreprises françaises qui vont être plus latines, on va dire, dans leur rapport à la presse, qui vont se fâcher, qui vont faire des procès. On peut penser à Bolloré, etc., ce genre d'entreprise où c'est très différent, finalement.
D'ailleurs, le livre est sur Amazon. Hein.
Oui, alors c'est un point qu'évidemment qu'on me fait souvent remarquer avec ironie et à juste raison. Mais bon, ça c'est la chaîne du livre en fait, hein. Et les règles du commerce aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où un livre est en vente dans les librairies, à la FNAC ou ailleurs, on ne peut pas décider de ne pas le mettre sur un site ou un autre, ce serait du refus de vente. Donc de toute façon, je ne connais pas d'auteurs qui décident de où sont vendus leurs livres, mais même les éditeurs, quand je leur apporte cette critique-là, ils me disent on n'a pas le choix, c'est comme ça, voilà. C'est de fait un très gros vendeur de livres aujourd'hui, donc il n'y a pas d'autre choix que ça, on va dire.
Et donc justement, pour revenir un petit peu à l'architecture Amazon, en fait, Amazon a commencé comme ça, en tant que vendeur de livres sur Internet, en ligne. J'avais deux questions à propos de ça. La première, c'est est-ce que, dès le départ, Amazon a rencontré des résistances aux États-Unis de la part des libraires? Et ma deuxième question, c'est maintenant, qu'est-ce que c'est Amazon? Parce qu'on en a un tout petit peu parlé en introduisant le sujet, à savoir qu'Amazon, en fait, ça a vraiment dépassé l'histoire du commerce en ligne. Et maintenant, Bezos est aussi investi dans la conquête de l'espace, etc.
Oui. Donc sur la réaction des libraires aux États-Unis, ils ont été assez circonspects au départ de cette initiative. Ils n'ont pas forcément cru dans son site, ils ne se sont pas forcément méfiés. Et puis de toute façon, il y a une liberté de commerce qui fait qu'il n'avait pas tellement grand-chose à faire contre.
Est-ce qu'on peut rappeler juste la date du début d'Amazon?
Oui,
pour qu'on se rende compte aussi de la rapidité de.
Oui, c'est 95, le lancement du site, qui a vraiment 25 ans. Et ça a été lancé en un an, en gros. À partir du moment où Jeff Bezos a décidé de lancer ce site, il a travaillé avec deux personnes seulement sur son projet. Il l'a lancé en une année seulement. Et il a choisi de le lancer à Seattle. Parce que c'était proche d'un entrepôt qui stockait énormément de livres, justement, pour les envoyer ensuite. Parce qu'il y a eu un tour marketing assez malin qui a été décidé dès le début, c'est d'avoir comme slogan 1 million de livres disponibles, la plus grande librairie du monde. Et c'était faux, en fait. Les livres, ils n'étaient pas stockés par Amazon à cette époque-là. Amazon enregistrait la commande, puis commander le livre, puis le livrer, ça mettait 3 semaines. Mais c'était ça la stratégie. Et donc il y a des vidéos très intéressantes de Jeff Bezos qui, dans les années 90, est invité dans des conférences d'éditeurs, donc vraiment des conférences du milieu du livre, et il prend la parole, et il est abondamment applaudi à la fin. Enfin, il fait un numéro de charme et de séduction pour présenter son projet. Donc on peut pas dire qu'il a eu des bâtons dans les roues au départ. Ensuite, les relations se sont nettement tendues quand Amazon a pris de l'ampleur, notamment avec son concurrent numéro 1, Barnes & Noble, qui est une chaîne de librairies, on va dire des supermarchés librairies hein, aux États-Unis, chaîne qui avait elle-même conduit à la perte de beaucoup de libraires indépendants et qui se voyait à son tour phagocytée par Amazon. Donc là, il y a eu des procès dans tous les sens entre eux. Amazon a voulu faire le site internet de Barnes & Noble au départ, ça ne s'est pas fait. Barnes & Noble ensuite a voulu copier Amazon, s'est pris des procès. Donc là, ça a été, pour le coup, par la suite, ça a été assez sanglant. Et donc sur la deuxième question de ce qu'est Amazon 25 ans plus tard, effectivement, on est très loin de la seule librairie en ligne. Hein, ça, en fait, assez rapidement, Jeff Bezos, en interrogeant les clients, s'est rendu compte qu'ils étaient prêts à acheter n'importe quoi par Internet. Ils pensaient qu'il y aurait plutôt des réticences à ça, mais il a vite réalisé que les gens étaient prêts à acheter même des vêtements sans les essayer, ou des pièces pour leur voiture, enfin tout et n'importe quoi. Et donc il a peu à peu étendu les catégories en vente sur le site, en commençant quand même par la culture, les jeux vidéo, la musique, etc. Et en étendant petit à petit à l'électronique, et jusqu'à la nourriture aujourd'hui, voilà, les livraisons des courses express en une heure à Paris, plutôt 2 heures ou 3 heures hein, dans les fêtes, ça existe aujourd'hui. C'est en gros le nouveau territoire d'Amazon. Amazon fait des magasins maintenant en physique, veut commercialiser des systèmes de courses sans payer, même des caddies maintenant qui permettent de mettre les produits dedans et de sortir avec son caddie directement sans visiblement avoir besoin de payer. Donc il y a ça. Il y a évidemment en fait toute une partie invisible d'Amazon qui est celle qui lui rapporte le plus aujourd'hui, qui est le cloud, donc l'informatique en nuage, hein, le fait de stocker les données des entreprises à distance dans des gigantesques fermes de serveurs. Amazon a eu besoin de ces serveurs pour son propre développement. Quand c'est devenu une très grosse entreprise au début des années 2000, ils se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de gros serveurs pour supporter les pics de connexion au moment de Noël, etc. Et Jeff Bezos a voulu mutualiser ces serveurs, en fait, les faire payer à d'autres entreprises quand elles en avaient besoin. Ils ont inventé le cloud élastique, c'est-à-dire que les entreprises payent uniquement pour ce qu'elles utilisent. Et c'est aujourd'hui utilisé par un nombre incalculable d'entreprises dans le monde. Ils sont devenus leaders de ce secteur-là. Ils ont 35% du marché mondial. C'est plus que IBM, Google, Alibaba, réunis, et Microsoft, voilà, les 4 poursuivants. Et donc, ils ont comme clients aujourd'hui Netflix, Google. Quand les gens regardent Netflix, s'il y a des pics de connexion, c'est de toute façon les serveurs d'Amazon qui encaisse ces connexions, voilà. Mais en France, peut-être qu'on en reparlera, mais en France, y compris les services publics sont dessus, voilà, Radio France, la SNCF, Renault, Engie, enfin, y compris des groupes parapublics, sont clients d'Amazon parce que c'est des gens à la direction de la technologie, de l'informatique, de ces entreprises qui prennent la décision. Et pour eux, c'est clair que c'est le moins cher, c'est le plus efficace, c'est le plus facile à mettre en place. Et donc, il n'y a pas plus de questions que ça qui se posent pour certaines entreprises. En tout cas, c'est ça qui leur apporte le plus aujourd'hui. Et ensuite, on pourrait poursuivre sur leur diversification dans l'espace. Alors l'espace, c'est Jeff Bezos en son nom propre qui a une filiale spatiale qui s'appelle Blue Origin, qui consiste à envoyer des fusées réutilisables dans l'espace, un peu comme fait Elon Musk avec SpaceX. Sauf que cette activité-là de Jeff Bezos, elle va être mise à contribution par Amazon, qui a pour projet d'envoyer des satellites dans l'espace pour fournir Internet à la planète entière. Donc je sais pas si ce sera la 6G, mais enfin, en tout cas ce serait l'internet par satellite. Ils ont un projet qui s'appelle Kuiper qui consiste à envoyer 3500 satellites à orbite assez basse pour y compris connecter des parties du monde qui ne pourraient pas encore acheter sur Amazon comme elles le souhaiteraient. Ils sont très investis dans la surveillance, le business de la reconnaissance faciale. Ils ont Amazon Recognition qui est un système qui est vendu à la police aux États-Unis, qui tourne évidemment sur le cloud d'Amazon. Voilà, donc ça c'est aussi un business très prometteur hein, pour eux. On a parlé de l'intelligence artificielle, de Alexa, qui est donc voilà, l'interface vocale d'Amazon, qui est là aussi très avancée. Ils ont plus de 10 000 personnes qui travaillent uniquement sur ça, et ils veulent commencer à monétiser ce système. Donc voilà, c'est assez... c'est assez innombrable le nombre de business dans lesquels ils sont. Quand même, une chose qui rassemble beaucoup des activités d'Amazon, c'est la logique de mutualisation de ces services à toutes les autres entreprises. C'est-à-dire, on pourrait croire que c'est surtout les consommateurs qui achètent des produits qui font la richesse d'Amazon, mais pas tellement, en fait. Ça, c'est plutôt une activité qui est soit à l'équilibre, soit à perte. Hein. Beaucoup des concurrents soupçonnent que ce soit à perte, parce que ça coûte très cher de livrer, etc. Mais le site internet est mis à disposition de toutes les entreprises qui veulent, elles, mettre leurs produits en vente sur Amazon. Ça s'appelle la place de marché. Et donc, 6 fois sur 10, quand les gens achètent sur Amazon, ils n'achètent pas à Amazon, mais à un autre vendeur, qui, lui, paye des commissions à Amazon pour être en vente, pour mettre ses produits en vente, qui achète de la publicité sur Amazon, qui paye pour que ses produits soient livrés par Amazon. Donc... il y a une mutualisation de ces infrastructures en fait techniques aux autres. Et quand Jeff Bezos fait des fusées, en fait sa logique c'est de rendre ses fusées accessibles à d'autres entreprises pour que un business spatial démarre. Et il pense que c'est la prochaine frontière industrielle d'investir dans l'espace, d'y localiser des industries polluantes, etc. Enfin c'est sa vision en tout cas. Et il pense mutualiser ça à d'autres entreprises.
Y compris avec l'armée américaine, si j'ai bien compris. Il a déjà des contrats, notamment par rapport à ses satellites, avec l'armée américaine.
Voilà. Et il essaie de décrocher un contrat pour envoyer les satellites de l'armée américaine. C'est pas encore décroché, mais ils sont candidats. Effectivement, et Donald Trump, je sais pas si le projet aura toujours cours s'il n'est pas réélu, mais il souhaite retourner, que l'Amérique retourne sur la Lune en 2024. Et Jeff Bezos a présenté avec sa filiale un lanceur et un alunisseur avec sa filiale Blue Origin. Donc là aussi, ils espèrent décrocher le contrat avec la NASA. De la même manière qu'ils collaborent avec la police, ils n'ont pas les réticences que peuvent avoir Google ou Facebook pour collaborer, en tout cas ouvertement, avec l'État américain, avec le système sécuritaire américain. Ils vont sans complexe sur ce terrain-là.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'est les oreilles loin du front et on est en train de voir les tentacules d'Amazon.
Amazonie attrape au cœur des maladies. express envoyé par courrier civilisé.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front, on écoutait Christine and the Queens nous chanter Amazoniaque. C'est un lien évidemment avec notre émission, puisque ce soir, nous découvrons toutes les facettes du monde fabuleux créé par Jeff Bezos. Et, c'est le monde selon Amazon avec Benoît Berthelot.
Oui, et juste avant la pause musicale, tu revenais sur cette fameuse conférence de lancement par Jeff Bezos, hein, d'Amazon, donc en 95, devant un parterre d'éditeurs, où il a fait un numéro de charme. Et moi, j'avais des questions justement sur cette obsession qu'il a, plus que n'importe qui, j'ai l'impression, de contrôler, de gérer son image. Pourquoi une telle... déjà, alors peut-être revenir avec toi sur cette mythologie Jeff Bezos, qui serait un espèce de nouveau self-made man à l'américaine avec des origines modestes. Pourquoi une telle obsession autour de cette image ?
Il est très très conscient du fait qu'il doit avoir un storytelling, comme on dit, et qu'il doit se mettre en scène pour faire parler de son entreprise. Et ça, au tout début de l'entreprise, d'ailleurs, ça a très bien marché parce qu'il était une start-up, donc Amazon n'avait pas de moyens pour communiquer à ce moment-là. Et se mettre en scène, c'était une manière de faire parler de lui et donc de faire parler de son entreprise. Et par exemple, le premier article qui a fait connaître Amazon, il est intervenu très très tôt, en 96, je crois, dans le Wall Street Journal. C'était un portrait de Jeff Bezos annoncé en couverture. Et ça a vraiment permis à Amazon d'accéder à une notoriété tout de suite importante aux États-Unis, dans les milieux d'affaires, auprès des investisseurs, mais aussi auprès des clients. Il y a eu le bouche à oreille, mais il y a eu aussi la presse qui s'est très vite fait l'écho de ce que faisait Amazon. Et lui, effectivement, il a un storytelling qui a été mis en place très tôt et il s'en cache même pas. Il faut voir qu'il ne vient pas du tout de... Alors, il ne vient pas d'un milieu spécialement modeste, ce qui a de particulier dans son enfance, c'est que c'est un enfant adopté, qui a été, voilà, sa mère a été enceinte très tôt, son père biologique est parti très tôt, il s'appelait Ted Jorgensen, et c'est Miguel Bezos, en fait, le nouvel époux de sa mère, qui a donné son nom à Jeff Bezos, qu'il a adopté. Ça fait penser à Steve Jobs, ça fait penser à d'autres entrepreneurs voilà, de la tech. Mais sinon, il a été un enfant plutôt brillant, mais que ses parents ont mis dans des écoles Montessori, dans des très bonnes écoles. Ils ont tout fait pour qu'il réussisse. Il est allé à Princeton. Il a ensuite commencé dans la finance, dans un hedge fund, donc ces fonds de placement financiers. Ce hedge fund avait la particularité d'être très technologique. C'est eux qui ont inventé le trading à haute fréquence, donc c'est le trading assisté par ordinateur en quelques millisecondes. Donc il était à un endroit où il pouvait vraiment voir les tendances émerger. Internet était balbutiant à ce moment-là, et son patron, il était vice-président hein, du fonds, mais son patron lui a dit on devrait faire quelque chose avec le e-commerce. Le commerce va forcément lui aussi aller en ligne, donc tu devrais faire quelque chose. Il a finalement fait ça tout seul. Il a lancé sa start-up. Et ses parents, par exemple, l'ont soutenu financièrement, ont quand même donné pas mal d'argent pour qu'il lance son entreprise. Donc, il a eu, on va dire, un environnement familial qui l'a aidé. Après, il est vrai qu'il a lancé sa start-up et qu'il avait, selon ses termes, 80% de chances de ne pas réussir à ce moment-là. Il a cherché à Seattle une maison avec un garage pour pouvoir dire que son premier bureau était un garage, parce que c'est cette espèce de mythe de la start-up qui commence dans un garage. Mais bon, dans son cas, c'est un peu ridicule, parce qu'il a cherché le garage pour pouvoir dire qu'il était dans un garage. Enfin, c'est un peu comique, quoi, la manière de se mettre en scène, mais il avoue quelque part lui-même que c'était voulu, quoi. Et il y a aussi tout ce mythe de j'apportais moi-même les paquets à la poste au début. Ce qui est vrai, hein, les premiers employés d'Amazon, quand c'était les premiers Noël, ils descendaient tous dans les entrepôts pour faire des nuits entières d'envoi de colis. Il y avait un côté très punk, avec beaucoup de salariés tatoués, un peu, je sais pas, un peu marginaux, qui étaient là, avec une ambiance très cool, des pizzas, machin. Et c'est marrant parce que les premiers salariés d'Amazon en France, que j'ai retrouvé et qui ont lancé l'entreprise en l'an 2000 en France, décrivent un peu le même côté start-up et très cool. Donc il y a un côté mythologique et en même temps il y a la réalité de cette entreprise qui a commencé comme ça avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui et que ce soit une autre ambiance. Mais on va dire qu'il est très très affûté en marketing et encore aujourd'hui. Amazon est une entreprise qui est, à mon avis, assez forte en marketing pour ses produits, même si sa communication laisse à désirer par beaucoup d'autres aspects. Voilà, il n'a jamais lésiné sur le fait de se mettre en scène. C'est quelqu'un qui raconte toujours les mêmes anecdotes au mot près, qui fait toujours les mêmes blagues parce qu'il se rend compte qu'elles marchent bien. Enfin, c'est quelqu'un aussi d'extrêmement analytique, méthodique, qui va, voilà, quand il voit quelque chose marche, il va le reproduire. Donc c'est un profil comme ça, assez, oui, voilà, vraiment tourné vers l'efficacité, y compris dans son image.
Est-ce qu'on peut dire que son rachat du Washington Post fait partie d'une stratégie de... Alors, pas forcément de se mettre en scène lui, ce serait un petit peu gros, mais disons de continuer cette storytelling autour d'Amazon, autour de l'entrepreneuriat américaine, autour de sa vision du monde?
Complètement, c'est un investissement qui est extrêmement stratégique. Ça l'est en France, on sait que de très nombreux titres de presse en France sont la propriété de milliardaires qui s'achètent une image, qui s'achètent un poids politique. C'est la même chose pour lui aux États-Unis, c'était une manière pour lui de se rapprocher de Washington. C'est vrai qu'il a toujours été à Seattle, qui n'est pas le cœur politique des États-Unis. C'était une manière d'acquérir une influence politique indéniable. Il a acheté au même moment la plus grande maison de Washington, qu'il a fait rénover, dans laquelle il donne des grandes soirées. Il est voisin des Obama à Washington, donc c'est le patron de presse à l'ancienne, voilà, qui est un mania des affaires, qui creuse son réseau de la même façon quand il a commencé à investir dans le cinéma, il était à chaque fois aux Oscars, il fait des fêtes avec les stars, il a acheté des maisons à Beverly Hills. Enfin, il veut avoir tous les aspects toutes les composantes du pouvoir, en fait.
Y compris culturel.
Y compris culturel, voilà, bien sûr, avec le streaming, avec le fait qu'Amazon investisse dans les séries et dans le cinéma. Donc là, c'est vraiment le soft power à l'américaine, dans lequel il s'est jeté vraiment de plein pied avec Amazon. Donc, il y a ce côté effectivement d'image dans le Washington Post. Après, il y a aussi cette même logique business qui a toujours repris le dessus, y compris au Washington Post, où il a embauché 400 journalistes. Donc, les journalistes qui sont au Washington Post sont très contents parce qu'ils disent qu'on leur laisse une paire royale niveau indépendance, et puis ils sont très nombreux, donc ils ont les moyens de faire leur travail. Et il a embauché des ingénieurs, 400 ingénieurs aussi. Il a inventé un système de publication des articles, qui est donc la technologie derrière le site du Washington Post est maintenant très, très pointue, et ce système est commercialisé pour tous les autres journaux qui voudraient l'utiliser. Donc en France, le Parisien ou les Échos utilisent Arc Publishing, le logiciel de publication d'Amazon. Je ne sais même pas s'ils le savent, mais en tout cas, c'est le cas. Et voilà, les pages s'affichent très vite. Enfin, voilà. Donc la logique business revient aussi prendre le dessus.
Et j'avais une question, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est sur son rachat de Whole Foods. Whole Foods aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent de Monoprix, ou plutôt de la marque Naturalia de Monoprix en France.
Ouais.
Et je me suis demandé, parce que tu dis dans ton livre, en fait, Whole Foods, c'est un peu l'inverse de ce qu'a voulu faire Amazon au début, c'est-à-dire que c'est peu de produits qui sont sur-sélectionnés, qui sont présentés comme étant sur-sélectionnés, et plutôt très chers. Et moi, je me suis demandé si ça faisait pas aussi partie de cette stratégie de vouloir montrer aussi qu'il était sur le terrain de la qualité, y compris alors de la qualité culturelle. Je ne sais pas si on peut dire ça sur l'alimentation, mais en tout cas, je ne sais pas. J'ai fait ce parallèle avec Monoprix et je me suis dit que peut-être la marque Whole Foods lui apportait aussi quelque chose de symbolique, voilà, qu'il ne retrouvait pas simplement sur le site. Je ne sais pas. Hein, peut-être que je.
C'est sûr que ça fait partie du tableau et ça fait partie des raisons pour lesquelles il a acheté Whole Foods. En fait, en achetant Whole Foods, il achète aussi les clients de Whole Foods, qui sont les Américains, effectivement, qui ne sont pas dans le besoin, hein, voilà, parce que c'est les avocats et les salades chez Whole Foods, ça coûte assez cher. Et donc, il y a cet aspect-là. C'est aussi des magasins qu'il a achetés. Il y a, je crois, plus de 500 magasins qui sont partout dans les États-Unis, qui sont bien situés, qui sont en centre-ville. Donc, c'est tout ça. En fait, c'est aussi le fait que Whole Foods n'était pas trop cher à ce moment-là et que c'était une bonne opportunité d'investissement. Il l'a acheté pour 14 milliards, ce qui n'était pas énorme pour cet actif-là. Après, effectivement, cette image haut de gamme de Whole Foods et la qualité que cette entreprise avait cultivée dans la sélection des produits, dans les prix pratiqués, ça a clashé un moment avec la culture Amazon, puisqu'Amazon a tout de suite dit « on va baisser les prix sur un certain nombre de produits ». Je crois que c'était les avocats, les bananes, enfin voilà, des produits que les gens qui peuvent faire venir les gens. Et du coup, certains producteurs ont dit « ça marche pas pour nous », des producteurs historiques ont été écartés. Enfin voilà, on a vu la logique Amazon à l'œuvre, y compris dans le management. Voilà, il y a eu des gros problèmes avec des salariés qui ont été licenciés, qui n'avaient plus de couverture santé. Amazon a mis en place ses promotions, ses discounts pour les clients Prime, donc les gens qui sont des abonnés à Amazon pouvait acheter moins cher chez Whole Foods, donc il a un peu perverti le modèle Whole Foods.
Et bien justement, la transition est toute trouvée, puisque je voulais qu'on revienne sur l'histoire du management chez Amazon, puisque c'est surtout pour ça qu'on le connaît, hein, quand Amazon a très mauvaise réputation sur son management. Et en fait, on voit dans ton livre, hein, cette obsession du contrôle, mais aussi cette obsession de la quantification. Et tu en as un tout petit peu parlé, ce désir finalement de manager avec des algorithmes, qui est de supprimer y compris le travail des managers. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et notamment sur ce management des cadres, parce que c'est ça aussi qui est assez novateur dans ton enquête, c'est qu'autant on voit bien comment ça se passe dans les entrepôts, hein, l'exploitation à outrance, autant on n'a pas forcément conscience que ça se passe aussi chez les cadres d'Amazon.
Oui. Effectivement, l'obsession de l'efficacité, de la quantification et du contrôle sur les salariés, il est répandu à tous les étages de l'entreprise. Et donc, au niveau des cols bleus de l'entreprise, ceux qui travaillent dans les entrepôts, les manutentionnaires, les livreurs, eux, ils sont, soumis à des pointeurs numériques qui sont des GPS qu'il y a dans les scanners des ouvriers qui parcourent les allées pour prendre les produits. Ils ont donc un GPS qui les suit, ils ont un minuteur, ils savent dans combien de secondes ils doivent prendre le prochain article, etc. Toutes ces données-là permettent au système informatique de gestion des salariés de savoir qui est productif, qui ne l'est pas, et immédiatement d'envoyer, là aussi automatiquement, des rappels à l'ordre aux salariés qui ne sont pas assez rapides. Et on a même vu dans le cadre d'un procès qui a eu lieu à Baltimore que Amazon avait inventé la lettre de licenciement automatique gérée par algorithme, puisque voilà, le système était capable de générer le document avec le nom du salarié, les données, vous avez collecté tant de produits à l'heure alors que vous auriez dû faire tant de produits à l'heure. Donc voilà, toute la lettre était remplie automatiquement. Et Amazon a dit que les RH pouvaient enrayer le processus d'envoi de cette lettre-là, mais toujours est-il que c'était automatique, et en une année, il y a 300 personnes qui ont été licenciées comme ça à Baltimore. Donc évidemment, c'est pas nouveau de tracer la productivité des salariés dans les grandes entreprises, mais on va dire qu'Amazon va toujours un peu plus loin dans l'innovation, dans l'invention dans ce domaine-là. Et pour les cadres qui sont, eux, plutôt bien payés, même s'ils peuvent être un peu moins que chez d'autres GAFA, mais pour ceux qui travaillent dans les bureaux, eux, ils ont aussi un système qui est assez différent, mais qui est l'évaluation entre pairs, où ils doivent deux fois par an écrire des commentaires anonymes sur leurs collègues qui sont centralisés au niveau du manager, qui peut donc lui décider d'un classement des salariés. Ça s'appelle le stack ranking. Ça a été fait chez Microsoft aussi avant. Qui est un peu similaire sur cet aspect-là, mais qui permet de dire les 5% de les meilleurs employés auront une augmentation, ceux du bas, on leur fera comprendre que c'est pas leur place et qu'ils doivent partir. Ça aussi, c'est quelque chose de très prégnant et de très fort chez Amazon dans le management. La quantification, le fait d'être très objectif sur les chiffres, etc. C'est quelque chose de très, très diffusé dans l'entreprise aussi, où on a une culture de l'écrit. Les gens écrivent des mémos. Dès qu'ils ont une idée de nouveaux produits, ils vont faire un mémo de 6 pages décrivant l'innovation. Et plutôt que de dire on va vendre beaucoup de produits, il faut dire on va vendre 60% de plus de produits. Enfin, il y a certains termes qui sont proscrits, tous les adverbes, beaucoup, moins, plus. Mais il faut toujours donner des chiffres chez Amazon. Pour être ultra précis, pour pouvoir fixer des objectifs, les atteindre. Et donc les gens qui rentrent chez Amazon doivent connaître une nouvelle langue, apprendre une nouvelle manière d'écrire, de parler. Il y a beaucoup de gens chez Amazon qui trouvent ça génial, qui rentrent dans ce moule en fait, et qui aiment bien cette manière de travailler, qui trouvent que c'est qu'au moins c'est clair, qu'au moins il n'y a pas de la note de gueule, que tout est quantifiable. Mais évidemment, il y a aussi des dérives nombreuses à ces systèmes-là de management qui sont constatées.
Mais les cadres, concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que les manutentionnaires, on voit bien, les livreurs, on voit bien, mais en fait, les cadres, on a un peu de mal à saisir en quoi consiste leur journée. Et aussi, parlons rémunération. Un cadre chez Amazon, alors je pense qu'il y a peut-être différents types de cadres, mais il y a un salaire autour de combien ?
Ouais. Alors les cadres, c'est pour beaucoup des ingénieurs, des gens qui font de la tech vraiment, qui écrivent les algorithmes, qui conçoivent le code, qui conçoivent les innovations sur le plan technique. Et puis il y a beaucoup de marketing, des gens qui eux vont sélectionner les fournisseurs qui vendent sur Amazon, vont repérer qu'est-ce qui marche bien, sur quoi est-ce qu'il faut orienter la publicité. Il y a de très gros départements publicité chez Amazon qui deviennent un géant de la pub aussi. Les ingénieurs, ils travaillent sur Alexa, ils font de l'intelligence artificielle, de la recherche fondamentale, ils travaillent sur les drones. Enfin, il y a tellement de métiers que c'est tous ces métiers-là. Évidemment, ils sont basés à Seattle ou au Luxembourg ou à Londres ou à Paris. Hein. C'est des gens qui sont dans les grandes capitales, dans des très grands bureaux. Et pour la rémunération... C'est des salaires qui sont voilà, qui sont en 150 000, 200 000 dollars par an pour des ingénieurs. Après, tout, vraiment, tout dépend du profil. Les développeurs informatiques, c'est des gens qui sont très bien payés aux États-Unis. Mais pour donner un exemple, j'ai parlé avec un prof français qui a travaillé toute sa carrière dans l'université en France, qui est spécialiste d'un domaine assez pointu, très, très technique, mais on va dire recherche fondamentale. Et il s'est laissé tenter, il a été approché par Amazon, il a été recruté, et il travaille à Seattle, et il a dû de son côté évaluer quel salaire serait, à son avis, confortable pour vivre à Seattle avec sa femme et ses deux enfants. Et le salaire que lui a proposé Amazon, c'était deux fois plus que ce qu'il avait anticipé. Donc il m'a dit, oui, bon, par rapport à la recherche française, c'est clair que c'est un autre monde.
Et question, parce qu'on était quand même parti sur ces techniques de management, pour le moins, on va dire, qui peuvent être aussi humiliantes, hein, qui peuvent être aussi problématiques. Est-ce qu'on connaît la moyenne de rotation chez les cadres? Parce que ça, on sait que dans les entrepôts et dans les livraisons, ça va très très vite. Hein, les gens ne restent pas chez Amazon, c'est trop dur physiquement. Ouais. Chez les cadres, est-ce que c'est trop dur psychologiquement?
On va dire qu'il y a cette espèce d'idée admise chez les nouveaux salariés Amazon cadres, qui est de dire on fait notre... C'est un peu comme faire notre service. On va être pendant un an ou deux à l'école Amazon, voir comment ça marche, avoir aussi le label Amazon sur notre CV, et ensuite on va en partir. Donc la plupart des gens, ils restent deux ans, deux ou trois ans, c'est déjà des anciens chez Amazon. Ils ont tous un programme qui leur permet de savoir depuis quand ils sont chez Amazon et où est-ce qu'ils se situent dans l'ordre d'arrivée dans l'entreprise, et ils sont toujours surpris au bout de 3, 4 ans, 5 ans de voir qu'ils sont parmi les 20 ou 30% les plus anciens. Enfin, ça va très très vite. Après, c'est aussi un marché de l'emploi très très dynamique, que ce soit aux États-Unis ou en France. Les gens qui travaillent dans ces boîtes-là sont les rois du pétrole, ils sont chassés par Carrefour, par tous les autres qui veulent les recruter. Mais c'est clair que pour quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule Amazon, il va souffrir, il va pas y rester longtemps. Et après, il y a des gens qui sont aussi l'exemple typique de l'Amazonien, ils s'appellent tous des Amazoniens, et qui vont faire des carrières de 15 ans chez Amazon, qui vont monter les échelons très rapidement, parce que pour eux ça marche bien, qui correspondent. Donc il y a aussi ce genre de personnes chez Amazon.
Et oui, il n'y a pas ce genre de personnes dans les entrepôts et parmi les livreurs, malheureusement. On est toujours sur FPP, c'est Les Oreilles Loin du Front. On reçoit Benoît Berthelot pour son livre Le Monde Selon Amazon.
Watching you.
Abba sur Fréquence Paris Pluriel. Oui, parce que ce soir, on parle quand même un peu d'argent. Il faut dire que le monde selon Amazon, c'est aussi une histoire de gros sous. Alors, Yolène, ce soir ?
On était juste avant la pause en train de parler du travail chez Amazon, du travail des cadres, parce que le travail dans les entrepôts et le travail des livreurs, malheureusement, on a quand même une image sordide de leur réalité. Et on parlait aussi de ces stratégies de management par algorithme, etc. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu avec notre invité, Benoît Berthelot, qui a fait son enquête sur Amazon, sur la façon dont avait Amazon justement de jouer, toujours à son avantage, hein, avec à la fois les différentes législations, mais aussi parfois avec ses propres algorithmes, puisqu'on apprend dans ton livre que notamment l'algorithme qui est censé gérer la mise en avant des produits sur Amazon, en fait, peut être coefficienté, si j'ai bien compris, selon si le producteur qui a son produit sur Amazon paye ce fameux programme qui s'appelle Vine, ou je ne sais pas, est-ce que...
Oui.
Voilà, tu peux nous parler un peu de ça, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout.
Oui, en fait, l'objectif de toutes les entreprises qui vendent sur Amazon, c'est évidemment d'être le numéro 1 en haut de la liste quand le consommateur va chercher sac poubelle ou poupée pour filles ou des gâteaux au chocolat. Voilà. Leur but, c'est d'être en haut de la liste, un peu comme les résultats Google, sauf que là, c'est les résultats Amazon. Puisque beaucoup de gens, maintenant, quand ils veulent acheter un produit, ne vont même pas par Google, mais vont directement sur Amazon pour voir quels sont les différents produits disponibles. Et en fait, cet ordre d'affichage des entreprises, il est commandé par un algorithme qui est une sauce secrète Amazon. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais on a quand même de très bons indices de quoi se nourrit cet algorithme pour classer les résultats. Et donc les entreprises, notamment, doivent avoir des notes élevées et des commentaires nombreux de consommateurs de leurs produits. Les 5 étoiles pour noter un produit, ça a été inventé par Amazon. On retrouve ça maintenant chez Uber, évidemment partout, hein, en ligne, sur Internet. Mais c'est arrivé très très tôt, dès le début du site Amazon. L'idée que les consommateurs puissent mettre des commentaires positifs ou négatifs, d'ailleurs. Au départ, ça semblait contre-intuitif, par exemple aux éditeurs de livres, qui aient des commentaires négatifs sur un livre. Et si vous êtes là pour vendre des livres, pourquoi est-ce que vous permettez ça, en gros ? Jeff Bezos disait, ben non, c'est notre... Nous, on aide les gens à faire leur choix, et s'ils ont confiance dans Amazon, c'est là qu'ils vont faire leurs achats. Mais du coup, beaucoup d'entreprises jouent avec ces notations et truquent, en gros, la notation de leurs produits. Et le système Vine dont tu parlais, c'est le fait qu'une entreprise va envoyer son produit gratuitement à un groupe de testeurs, qui sont peut-être 500 personnes, qui vont recevoir le produit gratuitement, et en échange de ça, vont écrire un commentaire. Évidemment, elles écriront un commentaire plutôt positif si elles l'ont eu en cadeau. Et beaucoup d'entreprises, maintenant, en fait, utilisent ce système-là de manière officieuse. Il y a des groupes sur Facebook de gens qui s'inscrivent, ça s'appelle des groupes d'avis Amazon, et donc les gens s'inscrivent, et il y a des entreprises qui leur proposent d'envoyer des produits gratos en échange d'une note positive. Il y a aussi des vendeurs chinois qui ont trouvé une autre méthode, parce qu'il faut savoir que les entreprises qui vendent sur Amazon, pour la majorité, sont chinoises, parce que Amazon a ouvert grand les vannes aux Chinois pour contrer Alibaba, pour contrer Wish, d'autres sites, pour avoir une profusion d'articles pas trop chers. Ces vendeurs-là sont arrivés en masse. Et donc, parmi toutes leurs pratiques, on va dire, peu scrupuleuses, qui sont ne pas payer la TVA, qui sont vendre des articles défectueux qui ne sont pas aux normes européennes. Voilà, parmi toutes ces pratiques-là, il y a le fait de truquer les notes, en fait, de leurs articles. Et donc, il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui se sont mis à recevoir récemment des graines à planter dans le sol. Ils se demandaient ce que c'était, ça venait de Chine, ils recevaient des enveloppes avec ces poignées de graines à l'intérieur. Et en fait, c'est des vendeurs qui, au hasard, créaient des comptes clients avec des adresses partout dans le monde et achetaient leurs propres produits depuis ces comptes clients, livraient donc soi-disant le produit, mais en fait c'était des graines qui valent rien, et laissaient une note 5 étoiles et des commentaires positifs. Donc c'était leur manière de truquer le site Amazon, et donc partout dans le monde, les gens ont cru que c'était peut-être des graines contenant le coronavirus, ou que c'était qu'il y avait une sorte de complot, quelque chose de terrible. En fait, c'était juste ça. Mais bon, c'est pour dire que voilà le genre de pratique impitoyable qui se joue derrière les pages Amazon. Et donc j'ai rencontré un certain nombre de vendeurs français. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se disent Amazon c'est l'avenir, on va booster nos ventes en vendant sur Amazon. Mais des entreprises de toutes sortes, ça, c'est vrai, elles existent, même si elles ne sont pas majoritaires. Et elles se retrouvent face à cette concurrence-là. Et donc elles se disent, mon Dieu, mon produit, au début ça vend toujours très bien, les nouveaux produits sont plutôt bonifiés par l'algorithme, ils vendent bien, et puis au bout d'un moment les ventes s'effondrent. Et donc une solution pour revenir en première ligne, c'est d'acheter des pubs évidemment, sponsoriser ces produits, et donc voilà, Amazon suscite des achats de publicité comme ça.
Et l'autre scandale par rapport à ça, c'est que... Enfin, scandale, oui, c'est scandaleux. C'est que Amazon fait payer pour les... Pour beaucoup de producteurs, fait payer la place dans l'entrepôt Amazon, que la place que prend le produit du producteur en question. Et ce prix augmente à mesure du temps. C'est-à-dire que si le pauvre producteur... je dis pauvre producteur, après, voilà. N'arrive pas à vendre son produit au bout d'un mois, au bout de deux mois, en fait, il se retrouve à payer des prix exorbitants pour un mètre cube de place dans les entrepôts Amazon. Et finalement, pour lui, ça lui revient beaucoup moins cher de dire « Bon, OK, on détruit tout, et c'est Amazon qui s'occupe de la destruction. » Et donc, à la fois, bah, ça a un coût environnemental terrible, et à la fois, Amazon s'en lave les mains en disant « Mais c'est pas nous, c'est des producteurs qui n'ont rien à voir avec nous, qui, d'une certaine manière, profitent de nos entrepôts. »
Oui, c'est le système tel qu'il a été conçu. Donc là, pour le coup, c'est Amazon qui est responsable d'avoir conçu ce système, hein. Et effectivement, au bout d'un an, c'est 1 500 € par mètre cube de stockage. C'est évidemment pas tenable. Le but pour eux, c'est de libérer la place dans les entrepôts, que seuls les produits qui se vendent restent dans les entrepôts, parce que même si ces entrepôts font parfois 180 000 mètres carrés, il faut quand même qu'il y ait une rotation des produits. Et donc les vendeurs, et encore une fois, on retrouve nos vendeurs chinois, ils ont fait l'effort d'envoyer des conteneurs entiers de produits... ils ne vont pas payer pour rapatrier ces produits-là, parce qu'ils ont le choix de payer pour les rapatrier, mais ce rapatriement, c'est plus cher que le pilon, en fait, que la destruction de ces produits. Et donc, effectivement, ça a eu cours pendant longtemps, la destruction des invendus chez Amazon. À côté de chaque entrepôt, il y a la benne à ordures, etc. Amazon a pour le coup mis pas mal de temps à réagir, mais là, il semblerait qu'ils aient pris la décision de donner systématiquement ces produits à des associations, au moins en France, et ils ont enfin mis en place une seconde vie pour ces produits-là, et il a fallu beaucoup de scandales et de dénonciations de cette pratique pour que ça arrive.
Et par ailleurs, puisqu'on parle des entrepôts qui sont vraiment le point noir dans l'image d'Amazon, on voit que Amazon joue aussi avec le droit du travail. Et que, en fait, c'est ce que tu montres dans ton livre, et notamment pour les livreurs Amazon. Amazon a maintenant un poids dans le fret qui est énorme, puisqu'ils livrent ce que tu disais, hein, partout dans le monde, mais commence à avoir un poids sur le droit du travail, justement, dans toutes les entreprises ou les administrations qui s'occupent de ça, puisque chez Amazon, c'est des livreurs indépendants qui livrent 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, avec travail de nuit, travail le dimanche, etc. Et par conséquent, qui ont tendance à imposer ce rythme-là, soit aux autres entreprises de fret, soit même à la poste en France.
Oui, la livraison, c'est vraiment aussi un peu un trou noir du système Amazon, mais il faut bien des gens disponibles pour livrer ces colis le plus rapidement possible, hein, puisque c'est ça la promesse d'Amazon, c'est d'aller toujours plus vite, et moins de 24 heures si possible, et le jour même si possible pour livrer les produits. Et donc effectivement, ça demande une réactivité énorme et une main-d'œuvre qui a pour caractéristique d'être ultra flexible, donc ultra précaire, puisque... les besoins en livraison ne sont pas les mêmes que vous soyez durant la période de Noël ou bien, par exemple, lundi. Il faut savoir que le dimanche soir, c'est le pic de commandes. Les gens sont chez eux, devant le film. Ils se disent de quoi on a besoin pour la semaine à venir. Ils passent leur commande Amazon et donc les entrepôts tournent dans la nuit et les livraisons commencent. Donc le lundi, il faut beaucoup de livreurs. Voilà. Mais par définition, il faut des sous-traitants en fait, hein, pour faire cette tâche-là. Et donc il y a des pyramides, des cascades de sous-traitants avec des entreprises comme Colis Privé et autres qui elles-mêmes embauchent des entreprises de livreurs qui sont souvent des petites entités d'une dizaine de livreurs avec un entrepreneur qui loue des camions. Hein. On voit par exemple dans Paris beaucoup de camions Europcar ou de location, camionnettes qui sont louées à la journée, ce qui montre encore une fois la flexibilité de l'activité. Et avec des vendeurs qui prennent ce job, voilà, pour quelques semaines, quelques mois, voilà, c'est le nouveau métier vraiment bouche-trou de notre époque qui est livreur Amazon, mais là aussi, bon, c'est effectivement des cadences infernales, des 200 colis par jour, là aussi c'est un système sur le smartphone qui vous dit qui vous devez livrer, à quel moment, etc. Amazon en plus a la particularité de ne pas accepter les retours de colis, donc les livreurs doivent se démener, remuer ciel et terre pour à tout prix donner les colis, que ce soit un gardien, les gardiens n'en peuvent plus, voilà, que ce soit au voisin, mais il faut bien le planquer, très mal le cacher sous le paillasson des gens, voilà, c'est des choses qu'on voit souvent, mais parce que les livreurs ne peuvent pas garder les produits. Effectivement, Amazon développe tout un système parallèle de livraison, parallèle à celui de la Poste, en ouvrant de plus en plus des centres de tri des colis partout en France. Il y a une douzaine de projets en France en ce moment d'ouverture de nouveaux entrepôts, et qui, eux, tournent 24 heures sur 24, contrairement à la Poste, et qui permettent, voilà, de tenir cette cadence et ce rythme. Et effectivement, ils imposent aussi ce rythme à d'autres, et la Poste a annoncé commencer à livrer des colis le dimanche, etc. Effectivement, c'est eux qui fixent toujours les standards dans le e-commerce, et toutes les autres entreprises, y compris la Poste, qui leur court après.
Et ce qu'on voit aussi, par rapport à aux libertés prises par Amazon par rapport aux droits, c'est, on en a parlé d'ailleurs au début, hein, c'est tout cette évasion fiscale, toute cette stratégie d'évitement fiscal. Et tu dis dans ton livre, il y a des choses scandaleuses, hein, c'est qu'on s'aperçoit que malgré tout, ils touchent quand même les subventions ou les crédits d'impôt au nom de l'innovation, etc. Amazon, par exemple, en France, bénéficie largement du CICE, hein, sans dépenser aucun euro pour l'argent public. Mais bon, ce qu'on voit aussi, ce que tu dis aussi, c'est que sans cette stratégie d'évitement, peut-être qu'Amazon ne dégagerait pas les marges suffisantes pour la montagne d'investissement qu'il fait, parce que finalement, ce modèle n'est pas si rentable que ça.
Oui, clairement, le fait d'éviter les taxes le plus possible, c'était une condition du surgissement d'Amazon. Il n'aurait pas pu le faire en payant des impôts plein pot. Ça, c'est quasiment certain. Effectivement, le commerce, c'est une activité de très faible marge. Et avant de pouvoir bénéficier, comme aujourd'hui, d'effets d'échelle, de pouvoir bénéficier de toutes ces entreprises qui payent pour leurs services, avant d'avoir le cloud comme une deuxième béquille, etc., ils ont dû, pendant de nombreuses années, investir à perte. Ils n'ont été rentables qu'à partir de 2007. Donc, pendant toutes ces années-là, leur système d'évasion fiscale a été déterminant pour eux. La principale stratégie, on va dire, hein, pour résumer, en Europe, c'est d'avoir un centre de profit au Luxembourg et d'avoir toutes les activités en fait les plus rentables qui sont centralisées au Luxembourg. Donc c'est la publicité dont on a parlé, le cloud évidemment, les commissions payées par les entreprises qui vendent, tous les abonnements Prime que payent les gens, enfin tout ça va au Luxembourg. Et pour ce qui est des activités pas rentables, là il n'y a pas aucun problème à les déclarer en France, puisque le bénéfice est très peu et que la taxation se fait sur les bénéfices. Voilà, donc c'est ça le système qui est mis en place. Là aussi on pourrait dire rien de nouveau, tous les GAFA le font, Netflix le fait, Facebook le fait, Google, Apple, voilà, et une bonne partie du CAC 40, hein, soyons clairs. Mais là où Amazon, on va dire, fait une concurrence déloyale, c'est que Amazon est en compétition contre des commerçants, d'autres entreprises qui, dans le commerce, sont lourdement taxées parce que les surfaces commerciales sont taxées en France, les entrepôts logistiques ne le sont pas du tout de la même manière. Et voilà, le commerce, c'est une activité de faible marge, de 1% de marge, etc. Et Amazon se trouve face à des commerçants traditionnels qui ne peuvent pas suivre, qui ne peuvent certainement pas investir autant dans la conversion au e-commerce.
Ce qu'on voit aussi, pour conclure sur ce point, c'est bien sûr que Bezos, mais comme bien d'autres, hein, en fait, il est complètement allergique idéologiquement à tout ce qui est public, hein, tout, donc l'argent public, les impôts, ça lui donne des boutons. Et tu racontes cette anecdote qui est, bon, bah, qui est totalement horrible et en même temps complètement ironique de ce qui s'est passé à Seattle, où en fait, avec le siège d'Amazon et les cadres de ce que tu décrivais tout à l'heure qui sont arrivés et qui en fait sont devenus richissimes à Seattle, les loyers ont tellement augmenté, bah, en fait exactement comme ce qui se passe dans la Silicon Valley, que ça a délogé un certain nombre de gens et que la ville de Seattle a demandé à Amazon de payer une taxe pour pouvoir faire des programmes de logement. Et Bezos a mis en place toute une stratégie de lobbying pour que cette taxe soit abandonnée. Donc tu dis que cette taxe a été abandonnée. Mais que, par ailleurs, Bezos a financé son propre programme.
C'est ça. Voilà. Après avoir dépensé en lobbying pour que la taxe qui devait vraiment bénéficier aux sans-abri, qui devait permettre de construire des logements, etc., soit abandonnée, après avoir fait ça, effectivement, il a annoncé le lancement d'un fonds philanthropique pour investir dans exactement le même secteur, mais en choisissant lui-même quelle association allait avoir les fonds, et en se donnant cette image de mécène. Alors la philanthropie, c'est quand même quelque chose de, j'allais dire, de standard pour les milliardaires aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Il faut reconnaître que c'est ancré dans leur système, mais Amazon, eu égard à sa fortune, il est l'homme le plus riche du monde, il a dépassé les 200 milliards de dollars. Il donne peu, il donne vraiment très peu par rapport à sa fortune. Et c'est le spécialiste des grandes déclarations. Encore une fois, je vais donner 10 milliards pour l'environnement, 2 milliards pour les SDF. On ne sait pas sur combien d'années, c'est pas très précis. Et une anecdote qui est parlante, c'est que son ex-femme, Mackenzie Bezos, qui s'appelle maintenant Mackenzie Scott, ils ont divorcé il y a 2 ans de ça, et la première chose qu'elle a faite après avoir divorcé et après avoir pris sa part, donc 25% de des parts qu'ils avaient en commun dans Amazon, elle a décidé de signer ce pacte, The Giving Pledge, qui dit c'est des milliardaires qui s'engagent à donner la majorité de leur fortune avant leur mort à la philanthropie. Et Jeff Bezos avait toujours refusé de la signer, et elle, comme un pied de nez, a dit quand même, c'est la moindre des choses à faire. Donc ça montre un peu la différence d'approche entre les deux, et le fait que oui, la philanthropie, c'est pas encore son truc, quoi.
Ce soir, aux oreilles loin du front, nous recevons Benoît Berthelot pour son livre Le Monde selon Amazon, et nous avons décidé de rendre un petit hommage à Jeff Bezos, un hommage à notre manière.
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Thank you.
êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'est les oreilles loin du front, et on écoutait David Bowie, The Man Who Sold the World, puisque ce soir, en fait, on parle aussi de Jeff Bezos, avec Benoît Berthelot, que nous recevons pour son livre Le Monde selon Amazon.
Et juste avant la pause, on parlait de toutes ces dérogations d'Amazon envers et le droit du travail, et la fiscalité, et bon, du coup aussi la philanthropie, etc. Mais derrière tout ça, en fait, il y a aussi une idéologie. Il y a aussi une idéologie qui est portée par Jeff Bezos, hein, qui est une espèce de vision du monde qui nous paraît complètement folle et absolument pas désirable, mais qui est aussi portée, il me semble, hein, par un fantasme de la suppression du travail, de la suppression de la matérialité, justement, peut-être de la livraison, de la suppression même de la matérialité des objets, que sais-je. Et une espèce de vision du progrès, c'est un peu ce que tu disais au début, hein, qui passerait uniquement par des nouvelles technologies, justement par la 5G, les satellites, la course à l'espace, etc. Et j'aimerais qu'on revienne avec toi sur tout ce pendant d'Amazon qui se traduit par en fait tout son développement dans les intelligences artificielles, la reconnaissance faciale et la collecte de données. Donc tu en as un tout petit peu parlé au début, hein, du cloud. Qu'est-ce que c'est ce cloud et quels sont le type de données qu'il y a sur ce cloud ?
Donc le cloud, c'est le stockage donc à distance, hein, d'informations sur des serveurs, des fermes de serveurs, des data centers, à la fois le stockage de l'information et puis la bande passante, hein, tout simplement dont a besoin le web pour fonctionner. Amazon a investi massivement dans ce secteur-là et ils sont à la fois propriétaires et locataires de fermes de serveurs. Ils en ont 3 en France, ils en ont de nombreuses en Europe. Et les données stockées sur ces serveurs, mais c'est absolument tout et n'importe quoi. C'est, donc on l'a dit, des entreprises comme Netflix, comme Google, comme Apple qui ont recours. Et en Angleterre, c'est le ministère de la Justice britannique qui stocke ces données dessus. En France, c'est, on l'a dit, des entreprises, y compris publiques, comme Renault, comme Airbus, comme Engie, qui stocke des données. Donc Engie va stocker des données de ses clients français sur ses serveurs. Il y a eu un scandale assez retentissant récemment en France sur l'éducation nationale qui faisait appel à un prestataire luxembourgeois, qui est le prestataire qui stocke les évaluations des élèves, les évaluations de CP, CE1, etc. Et donc ce prestataire faisait appel au serveur d'Amazon. Mais en vérité, si on savait toutes les entreprises, tous les sites internet qu'on utilise qui font appel à Amazon pour stocker leurs données, c'est vertigineux. Et donc en fait, aujourd'hui, il est plus rentable pour une entreprise de stocker ses données de cette manière-là plutôt que d'avoir des serveurs dans une armoire. Alors, le plus souvent, c'est plus qu'une armoire qu'il faut, c'est carrément une salle climatisé, avec vous avez sûrement l'image des tours de serveurs qui clignotent, etc. Ça chauffe énormément, il faut climatiser ça, c'est des coûts énormes. Et donc toutes les entreprises et les administrations sont en train de passer vers du cloud pour héberger leurs données. Et Amazon, évidemment, c'est très tôt positionné sur ce secteur-là. Il n'y a pas vraiment de géant du cloud européen. Il y a souvent ce débat qui revient du cloud souverain. La France devrait avoir un cloud souverain, c'est-à-dire pouvoir protéger ses données. Emmanuel Macron l'a redit il y a 2 jours devant la French Tech à l'Élysée. On n'a pas réussi sur le cloud, il faut tout reprendre. Il y a quand même des entreprises comme OVH, hein, qui est une entreprise du nord de la France, qui est une grosse entreprise du cloud, mais qui n'a pas réussi à s'imposer. Il y a Orange qui fait du cloud. Enfin bon, il y a des alternatives, hein, mais pas de géant véritablement. Et les problèmes que ça pose, parce que si vous écoutez Amazon, ils vous diront les données sont compartimentées, elles sont cryptées, il y a des clés de sécurité que les entreprises possèdent, etc. Et pas nous, enfin voilà. Toutes les barrières sont mises en place pour que ce soit ultra sécurisé. Amazon a essayé d'avoir l'autorisation pour héberger des données de santé, par exemple, c'est très sensible, il faut des certifications énormes. Microsoft les a, par exemple, en France. Mais le problème que ça pose, c'est tout simplement le clash entre les lois européennes et américaines sur le sujet. En Europe, on a la RGPD, le Règlement général de protection des données, qui fait que vous êtes propriétaire de vos données, les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi avec, vous avez un droit d'accès, vous avez un droit de suppression, il y a une portabilité des données, si vous quittez un service, vous pouvez prendre vos données avec vous, etc., c'est les vôtres. Et le système américain n'est pas fait comme ça. Et la loi américaine, notamment le Cloud Act, qui a été voté par Trump, fait que n'importe quelle entreprise américaine qui héberge des données, même si c'est en Europe, elle doit les communiquer à la NSA, au FBI, enfin à l'administration américaine, s'il y a une demande de ces données. Alors évidemment, c'est des cas comme le terrorisme auquel ils pensent, enfin voilà, ce genre d'informations qui doivent remonter, mais la loi, c'est toute information relevant du bien public, enfin c'est suffisamment flou pour qu'on se demande qu'est-ce qui arrive à ces données. Donc voilà quelle est la problématique autour de ça, et ce cloud, c'est vraiment la base d'Amazon pour y greffer énormément de services autres. La reconnaissance faciale, on en a parlé, fonctionne grâce à ça. L'intelligence artificielle vocale, elle marche avec ce cloud. Enfin, c'est vraiment ce qui centralise toute la puissance d'Amazon aujourd'hui.
Et alors, juste pour terminer en deux minutes, parce qu'on avait commencé là-dessus, justement, par rapport à l'intelligence artificielle, tu montres que ce programme Alexa, le programme de reconnaissance vocale par Amazon, fonctionne donc non seulement avec cet ensemble de données qui sont stockées et qui ont un coût écologique très important, on ne va pas revenir là-dessus, mais aussi avec tout un ensemble de petites mains qui écoutent les commandes faites par n'importe qui possède cette enceinte et qui essaye de corriger les réponses d'Alexa. Et ça, c'est très frappant. Alors peut-être que tu pourrais en parler en une minute.
Oui, tout simplement, l'intelligence artificielle dont on parle souvent n'est pas si intelligente que ça. Et c'est comme toujours des algorithmes qui ont besoin d'être entraînés, qui ont besoin de s'améliorer constamment et d'apprendre. Mais parfois, ils bloquent, c'est-à-dire ils ne vont pas comprendre quelque chose que quelqu'un a dit. Et tous ces cas problématiques sont rassemblés et envoyés vers des salariés basés en Inde, aux États-Unis, en Roumanie, qui sont spécialisés par
là. Qui sont mal payés, hein, du coup. C'est pour ça qu'ils sont en Inde et en Roumanie.
Évidemment, voilà, c'est des sous-traitants, encore une fois. Et ils écoutent, en fait, des gens qui sont confortablement dans leur salon, dans leur cuisine, en train de dire des trucs qu'Alexa n'a pas compris. Et donc, ils vont retranscrire quelle était la chose qui a été vraiment demandée pour améliorer cette intelligence artificielle. Mais évidemment, ils se rendent compte qu'il y a énormément d'extraits qui ont été enregistrés, qui n'ont rien à voir avec Alexa, Alexa s'est juste déclenché parce que la télé était en train de dire avec ça, par exemple, qui était une formule française qui est très proche et qui l'a fait se déclencher. Enfin, voilà. Mais c'est pour montrer qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a aussi des ouvriers du Click qui travaillent pour Amazon, qui font des micro-tâches marketing. Enfin, il y a énormément de gens qui travaillent derrière cette infrastructure pour que ça fonctionne.
Et oui, parce que ce fantasme de supprimer le travail, en fait, ne peut passer que par l'exploitation de travailleurs. Alors là, pour le coup, qu'on va aller chercher en Inde, qu'on va aller chercher je ne sais où, dans le tiers-monde. Et il ne faut pas oublier que le client Amazon, en fait, c'est aussi un travailleur. Et ça, souvent, les clients Amazon ont tendance à l'oublier. Ce soir, on recevait Benoît Berthelot pour son livre « Le monde selon Amazon » qu'on vous conseille. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Il se lit très bien. C'est très palpitant, en fait, de voir toute cette épopée. Et puis
C'est palpitant, mais c'est effrayant.
C'est aussi effrayant. C'est paru aux éditions Cherche Midi. C'est paru l'année dernière, je crois.
Oui, c'est ça.
2019, « Le monde selon Amazon », Benoît Berthelot.